récemment. C'est un petit épître de 4 chapitres et seulement, je crois, ça doit faire 3 ou 4 pages dans notre Bible. Mais une lettre tellement riche que ça fait des années que je voulais qu'on puisse ensemble étudier cette épître. Et donc le moment est venu maintenant de nous pencher sur cet enseignement de l'apôtre Paul. Je vais donc vous lire le premier chapitre pour que nous ayons un peu de contexte et je vais vous faire aujourd'hui une petite introduction à cet épître et vous expliquer pourquoi il est important de nous de saisir son contenu. Nous lisons donc « Paul, apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » L'apôtre Paul parle des chrétiens dans cette ville de Colosse. Il a entendu, il ne les a pas rencontrés, mais il a entendu parler que des gens se sont convertis dans cette ville. Donc, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Cet Évangile est parvenu chez vous, tout comme il porte du fruit et fait des progrès dans le monde entier, dit l'apôtre. Il en est de même chez vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, selon la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ma version ne le dit pas, mais c'est sous-entendu pour marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, portant, littéralement, c'est un participe, portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissant dans la connaissance de Dieu, devenant puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Avec joie, rendant grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et en parlant de ce Fils bien-aimé, le Christ, Jésus, il dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né ou l'aîné de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux, et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Là, il parle du domaine spirituel angélique, donc les pouvoirs angéliques. Tout a été créé par lui, Jésus, et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps, l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et établie pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Nous sommes à l'année 62 de notre ère. Le christianisme se répand un peu partout. Depuis Israël, il est allé en Syrie, un peu au nord. De là, il est allé en Turquie, dans ce qu'on appelait l'Asie mineure, mais c'est cette péninsule de Turquie qui va vers l'Europe. Et l'apôtre Paul et ses compagnons, surtout, ont sillonné toutes ces régions, jusqu'en Grèce, en Macédoine, en Italie. Il y a des églises chrétiennes dans tous ces endroits, maintenant, à peu près 30 ans seulement après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il y a des églises où on se rencontre comme ici, mais plus de gens dans ces endroits, et qu'on croit dans le Seigneur Jésus-Christ comme le seul sauveur du monde. Et ils étaient autrefois hostiles à Dieu, et ces gens ont été transformés. Donc, un de ces endroits où une église a été plantée, c'est la ville de Colosse. La ville de Colosse est une ville en Turquie, dans la région de Phrygie et dans la vallée d'une rivière qui s'appelle le Lycos. Et donc ce n'est pas Paul qui a implanté cette église, c'est quelqu'un dont on a lu le nom et dont nous avons un garçon ici par ce même nom, Épaphras. Alors Épaphras, donc apparemment s'est converti quand Paul et ses compagnons ont implanté une église à Éphèse et sont restés à peu près 2 ou 3 ans. Et dans toute la région, nous dit les Actes des Apôtres, il y a des gens qui ont entendu l'évangile, dont Épaphras, qui est rentré chez lui dans sa ville natale de Colosse et qui a répandu l'évangile. Une église a commencé, dont il est devenu le pasteur. Donc, l'apôtre Paul n'a jamais donc vu cette église à Colosse. Il était déjà parti quand tout ça s'est passé. Et donc, quand vous avez vu, il parle du fait qu'il a entendu parler de leur foi, de leur conversion. Et il ne peut pas les voir maintenant parce que Paul est en prison. Cette lettre part d'une prison à Rome, est envoyée par l'intermédiaire d'un ami de Paul qui s'appelle Tichite, vous allez voir son nom dans l'épître, vers l'église de Colosse. Pourquoi? Ah, il y a eu des problèmes. Cette église n'a que 6 ans. Cette église a presque 6 ans bientôt. Mais l'église de Colosse n'a que 6 ans. Et il y a déjà des faux enseignants qui sont arrivés dans l'église. Le christianisme a quelques décennies, mais vous savez que le diable ne chôme pas. Il veut amener les hommes dans les ténèbres et par toutes sortes de contrefaçons et de perversions de l'évangile. Et donc il y a des gens qui sont arrivés et qui ont commencé à enseigner des choses fausses. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais Épaphras, la situation devient un peu critique et donc Épaphras part de Colosse, il fait le long voyage de Turquie jusqu'en Italie et jusqu'à Rome, jusqu'à la prison de l'apôtre Paul pour lui soumettre la situation et pour lui demander de prier pour cette église et de faire quelque chose, d'écrire avec l'autorité d'un apôtre pour remettre les choses d'aplomb. Et donc Paul écrit cette épître et il expose l'erreur de ces gens qu'il a entendus de la part d'Épaphras Et donc il explique la solution, le remède dans l'évangile pour cette erreur. Et vous allez voir pourquoi cette erreur est encore présente aujourd'hui. Ces erreurs. Il y a des courants de pensée, des spiritualités en France aujourd'hui qui ont les mêmes problèmes que l'hérésie de Colossiens. Donc, quelle était cette erreur ou cet enseignement un peu sectaire? Alors, c'était un mélange de croyances phrygiennes, c'est-à-dire les religions de la région, le paganisme de la région, mélangé avec des rites et des rituels judaïques, juifs, et mélangé avec un peu de l'évangile. Les faux enseignants étaient parfois les gens deviennent à moitié convertis. Je l'ai vu dans différents endroits où j'ai été, en Côte d'Ivoire, dans l'Afrique de l'Ouest, on voyait parfois des gens qui adhéraient, qui venaient à l'église, qui se croyaient chrétiens, mais en fait, ils ne s'étaient pas encore défaits de pensées animistes, des pensées, des croyances de leur ancienne, enfin de leur milieu, pour vraiment parvenir à une foi véritable en Christ. Et donc vous avez une sorte de mélange, une sorte de syncrétisme, on l'appelle parfois, et c'était le cas ici. Ces gens étaient préoccupés par le monde spirituel. Ils croyaient que le monde était rempli d'êtres de Dieu, et nous étions un peu sous le pouvoir et à la merci de ces anges ou ces dieux. Ils cherchaient des moyens pour rentrer en contact avec ce monde afin de flatter, manipuler, solliciter de l'aide de ces êtres pour ne pas être leur proie. Je vais juste vous lire, si vous voulez tourner la page et lire dans le chapitre 2, vous allez avoir l'aperçu un peu rapide de quelques aspects de cet enseignement. Alors, au verset 16 du chapitre 2, nous lisons ceci. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez, buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Ce sont des rituels juifs. Donc voilà le côté juif qui est présent. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. C'est-à-dire les cérémonies juives étaient des préfigurations qui donnaient un peu un portrait visible de Christ, mais lorsque le Christ est venu, on n'a plus besoin. Normalement, ces rites du judaïsme sont caducs. Okay? Dès que le Christ vient. Sacrifier un agneau nous parle de l'agneau de Dieu, lui, qui doit venir, mais une fois qu'il est là et qu'il a été sacrifié, on n'a plus besoin de sacrifier d'agneau. Vous voyez? Donc il y a ces rites. Que personne, verset 18, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, ben voilà, le culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course, un tel homme s'abandonne à des visions, beaucoup de mysticisme. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles au lieu de s'attacher au chef Christ. Il cherche de l'aide partout dans le monde spirituel, mais pas à Christ. S'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations grandies d'une croissance qui vient de Dieu. Il regarde l'Église comme un corps, donc Christ est la tête et nous sommes les parties. On doit s'attacher au chef, à la tête, au lieu d'aller ailleurs. Il dit, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, aux croyances élémentaires païennes et juives, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Parce qu'il y avait dans leur croyance de l'ascéticisme. Donc ça veut dire on traite durement mon corps, je traite durement mon corps, je me prive, je touche pas ça, je mange pas ça, dans l'espérance que par ces moyens, je vais arriver à une expérience spirituelle. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas toutes choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait. C'est des choses qui périssent par l'usage. Ça ne peut pas vous aider dans le monde spirituel. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains, pas divins, ça ne vient pas de Dieu, qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, c'est-à-dire c'est un culte que j'ai créé moi-même, qui vient de ma volonté, c'est une religion quitte. Hein. Un culte volontaire, humilité, rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et qui contribue à la satisfaction de la chair. Donc, vous avez senti qu'il y a donc de l'ascétisme, un peu de rituel juif, et aussi donc cet attachement aux anges et ce mysticisme. Tout cela est vraiment un cocktail, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est entré dans l'Église et qui, vous pouvez comprendre qu'il y a une sorte de, je sais pas si on appelle ça chaman, c'est ça le mot? Quelqu'un qui semble très puissant et qui arrive et qui vous dit qu'il a eu telle expérience, il a vu telle chose dans une vision et il commence à convaincre des gens qu'il a quelque chose. Que Christ, c'est bien, je suis aussi chrétien, mais une fois qu'on est chrétien avec Christ, il y a le plus, il y a un plus qu'il faut recevoir. Et si vous voulez, l'épître aux Colossiens, le message central, c'est que en Jésus-Christ lui-même se trouve toute la plénitude. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin que lui à quelque chose d'après lui. Ok? Jésus-Christ n'est pas le jardin d'enfants dont vous avez besoin de quitter pour aller à l'université un jour. Le Christ, il est toute la scolarité. Il est le tout. Et si vous voulez, dans le chapitre 2, si vous lisez avec moi, dans le verset 9 du chapitre 2, nous avons ces versets clés. Car en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Il est le chef des anges. Pourquoi as-tu besoin des anges quand tu as leur chef? Bien, donc aujourd'hui, nous allons juste focaliser, après une mise en place de la situation, sur ce verset 3. Que nous allons relire dans le chapitre 1. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité, celle de l'Évangile, vous a fait précédemment connaître. Vous avez peut-être remarqué en lisant cela que Paul remercie Dieu pour trois choses qu'il a entendues existait dans les Colossiens. Il dit d'abord leur foi en Christ, votre foi en Christ, deuxièmement l'amour que vous avez pour tous les saints, et puis l'espérance. Et donc c'est de ces trois vertus cardinaux, on les appelle ça dans la théologie chrétienne, la foi, l'amour et l'espérance, que nous voulons parler aujourd'hui. Ok. Première chose, nous allons entrer dans la matière de cet épître, mais on va le prendre systématiquement, pas à pas, pour comprendre le message de Paul. Et la première chose que Paul fait quand il écrit à une église, d'habitude, c'est de remercier Dieu pour eux. Et presque toujours, à peu près de la même manière, de remercier Dieu pour leur foi en Christ, leur amour les uns pour les autres et leur espérance. Nous le voyons encore ici. Et il est important de savoir que Paul remercie Dieu pour leur foi, amour et espérance. Pourquoi est-ce important? Parce que Paul est en train de dire, Je sais qu'il y a vous a amené à être croyant, aimant et espérant. C'est pas vous-même. Je remercie Dieu de ce que, par sa grâce et son action, en envoyant Epaphras et en ouvrant vos cœurs à ce message, que Dieu lui-même, votre Dieu qui a créé l'univers, il vous a amené à la vérité et il vous a amené au salut. Il est important pour nous de comprendre cela parce que nous ne découvrons pas la vérité de nous-mêmes. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas par la réflexion tout simplement humaine et par la raison humaine que nous arrivons à comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes, où nous allons, qui est Dieu, que veut-il, comment revenir à lui, comment le connaître. Ça, c'est des choses que seul Dieu peut nous faire savoir. Donc, c'est une action de Dieu bienveillante de donner au monde son évangile. Et là, il dit que vous avez compris ces choses par le message de la vérité, l'évangile vous a fait connaître ces choses. Et donc, vous aussi, si vous êtes là aujourd'hui et vous avez cette foi, cet amour et cette espérance, véritablement, véritablement, parce qu'il y a des gens dans des églises qui sont pas, qui n'ont pas eu cette vraie conversion, mais si vous l'avez, c'est parce que Dieu lui-même est allé vers vous. Il a fait quelque chose. Il vous a attiré vers des chrétiens, il vous a attiré dans une église pour écouter, il vous a donné envie, et ça, c'est pas venu de vous-même. Et donc, gloire à Dieu, nous disons. On ne va pas dire « Gloire à moi, je me suis converti et pas mon voisin parce que j'étais plus intelligent. » Je dis « Laissez à moi-même, je ne serai jamais venu à ça. » Et je dis « Il y a un Dieu bon, il a été bon envers moi. » Maintenant, ces trois choses. D'abord, nous allons regarder la foi en Christ. Dans le verset 3, il dit « Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions sans cesse pour vous. » Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus. C'est la première chose. Et Paul le met toujours en premier. Chers amis, la foi vient avant l'amour. Même si l'amour est plus grand, l'amour ne peut pas exister sans que la foi soit là comme un socle sur lequel je suis assis ou je me tiens. La foi en Christ Jésus. Pas la foi en Dieu en général, la foi en Christ Jésus. Vous ne pouvez pas venir à la vie éternelle, vous ne pouvez pas arriver à la vérité, vous ne pouvez pas venir dans le royaume de Dieu sans que quelque chose se passe entre toi et Jésus-Christ. Et cette chose s'appelle la foi. Que maintenant, c'est à lui que je m'en remets. C'est en lui que j'ai confiance. Jésus a dit un jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous allez connaître le chemin, vous devez connaître Christ parce qu'il est le chemin. C'est une personne qui est le chemin vers le Père. Et je suis la vérité. Si vous allez savoir la vérité sur qui est Dieu, il faut que vous le voyez incarné dans la personne du Christ. Qui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce qu'est le Père en vérité. Et la vie. Si vous allez avoir cette vie spirituelle, si vous allez vous réveiller de votre stupeur, votre mort spirituelle dans laquelle vous n'avez aucune envie de Dieu, vous avez envie du contraire de Dieu, si vous allez être réveillé de cette mort, alors il faut que le Christ et personne d'autre, soit celui qui le fait. Jésus a dit un jour, « Je suis le bon berger, mes brebis entendent ma voix. » Et me suivent. Le Christ fait entendre sa voix, un homme, une femme, et cette personne le suit à cause de Christ et sa voix. Je ne veux pas dire une voix audible, mais je parle de sa parole, sa vérité. Donc, nous voyons que Paul démarque le chrétien par trois choses. Le vrai chrétien, il les démarquait toujours par le fait de cette foi en Christ. Personne d'autre ne tient la place dans ma vie que tient Jésus-Christ. Il est le Sauveur. Il a été crucifié, personne d'autre. Il a été envoyé du Père, du Dieu très haut, et personne d'autre pour nous sauver de nos iniquités, n'est-ce pas? Et quand nous venons vraiment à la conversion, nous venons, nos yeux sont ouverts et nous voyons que Christ, que Jésus-Christ, il est ce qu'aucun autre ne peut être. Foi, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Foi en Jésus-Christ. Ah là, aujourd'hui en France, le mot foi, ça signifie plein de choses, n'est-ce pas? Et rien du tout. Paul ne parle pas d'un assentiment intellectuel. Je crois en Christ. Comme quelqu'un pourrait dire, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe. Ça ne vous fait aucun bien de croire comme ça. Jacques, dans son épître, dit, même les démons croient comme ça. Ils savent qu'ils croient que Christ est le Fils de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ça leur fait un bénéfice. La foi, ce n'est pas non plus une vague dépendance en Jésus, un peu en général, pour être celui qui m'aide dans ma vie. Avoir une bonne vie ou une vie de rose. C'est pas ça. Dans le sens biblique, la foi en Jésus est une réponse à un appel spécifique de Dieu envers toi, de Dieu qui envoie Christ dans une capacité précise et qui te commande « Croyez dans mon Fils ». Remettez-vous à lui, faites-lui confiance et il fera telle chose. Il est très important que vous compreniez que la foi est une obéissance dans le sens biblique. La Bible utilise, le Nouveau Testament utilise la phrase « l'obéissance de la foi ». Parce que quand je crois, c'est parce que Dieu m'a dit de croire. Il m'a envoyé le Christ et il m'a dit de me confier à lui. Mais quelle est cette capacité précise dans laquelle Jésus est venu et dans laquelle je dois lui croire? Alors, vous vous rappelez que quand le Christ est né, les anges ont dit « C'est aujourd'hui dans la ville de David qu'il vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur. » Alors, voilà. Il nous a été envoyé comme sauveur et Seigneur. Sauveur de quoi? Alors, l'ange dit à Joseph, le mari de Marie, lorsque Jésus va être né, il lui dit de nommer ce garçon Jésus, et il lui dit que Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera, voilà, sauveur, il sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Pas de tous les malheurs de la vie. C'est pas pour ça qu'il est venu. Ce monde est un monde de malheur, ça va pas changer. Nous l'avons détraqué, c'est notre faute. Donc c'est pas de ça. Si vous voulez une vie de rose, ne venez pas à Jésus-Christ parce que vous aurez plus de problèmes une fois que vous êtes chrétien. Donc je vous dis, parce que maintenant sans Christ, vous allez avec le courant, l'immoralité, le mensonge, n'importe quoi. Et quand vous venez à Christ, vous allez contre le courant. Donc, vous avez à la limite plus de problèmes, mais plus de capacité de vivre avec des problèmes. En tout cas, donc, il est venu vers toi comme sauveur pour vous sauver de vos péchés, de vos crimes contre Dieu, du fait que vous n'avez pas suivi le plan de Dieu. Pour certains de vous, vous n'avez même pas cherché à savoir si Dieu avait un plan pour vous. C'est ça le péché, n'est-ce pas? Même pas chercher. Et donc, il vient pour vous sauver de cette condamnation que vous méritez, mais aussi pour vous sauver de ce penchant pour le péché. Parce que ça ne sert à rien d'enlever les toiles d'araignée si vous n'enlevez pas l'araignée. D'accord? Si Dieu vous enlève la condamnation que méritent vos crimes et vous continuez à commettre de nouveaux crimes, de vivre dans le crime, il n'y a rien qui a changé, n'est-ce pas? Donc le Christ vient pour faire les deux choses. Pardonner, enlever la culpabilité, transformer. Changer votre penchant pour que maintenant vous aimiez Dieu, vous aimiez sa volonté, son plan, la raison pour laquelle vous existez. Maintenant, j'ai une chose de plus à dire au sujet de la foi et je vous soulage parce que quand je vais parler de l'amour et de l'espérance, ça va aller vite. D'accord? La dernière chose, c'est comment est-ce que j'exerce la foi, cette foi-là, en Jésus, dans cette capacité de sauveur, de celui qui me fait revenir à Dieu, qui me réconcilie avec Dieu. Alors, le mot foi dans la Bible signifie confiance. Ça signifie se remettre à quelqu'un, dépendre de quelqu'un d'autre pour qu'il fasse ce que je ne peux pas faire. Vous avez besoin d'une opération et vous faites confiance, vous avez la foi dans le chirurgien. Il va vous endormir et vous vous remettez complètement entre ses mains. Vous ne faites rien. Et vous avez confiance en lui pour que lui, il fasse tout. C'est ça. Je remets mon état éternel devant Dieu, mon juge. Je m'en remets à Christ pour qu'il règle l'affaire entre moi et mon Dieu. Aucun mérite de ma part, aucune contribution de ma part, seule sa mort sur la croix pour moi. C'est lui qui s'occupe. Et Dieu commande que ce soit lui seul qui s'occupe. Il a envoyé pour que lui nous sauve de nos péchés et nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Donc, mais ce que je voulais vous dire, c'est que la foi biblique ne peut pas exister sauf s'il y a un appel, une offre de Dieu. Et un appel de Dieu à accepter cette offre. Je vous donne un exemple, vous allez voir, c'est abstrait ce que je viens de dire. Je ne peux pas aller à mon voisin et lui dire, ah, merci tellement mon voisin, je suis soulagé. Il dit, merci pour croire. Tu es soulagé au sujet de quoi? Mais parce que tu vas réparer ma voiture. J'ai foi en toi. Je m'en remets à toi. Mais je ne peux pas avoir foi en quelqu'un qui s'il n'a pas offert de faire la chose pour moi. La foi est une réponse, ce n'est pas une action, c'est une réaction, comme j'ai dit la semaine passée. Okay? Et donc, la foi existe parce que Dieu a tellement aimé le monde, chers amis, qu'il a donné, qu'il vous a donné son Fils comme sauveur. Et il a commandé aux hommes à tous les hommes dans tous les lieux de se repentir et de croire dans ce Fils, de s'en remettre à lui. Donc ça, c'est la première chose que Paul, il remercie Dieu parce que c'est un miracle quand quelqu'un arrive à avoir cette foi et il voit que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Dieu le Fils qui s'incarne et qui me ramène à Dieu. Tout seul, il me ramène. Toute ma foi est en lui. Mais la deuxième chose qui est sujet de reconnaissance et la deuxième marque de tout vrai chrétien, si vous êtes chrétien, vous avez cette marque, c'est l'amour que vous avez pour tous les saints, dit Paul. Je remercie Dieu pour l'amour que vous avez pour tous les saints. Alors les saints, c'est pas des gens spéciaux que l'Église de Rome a. Le mot saint, ça veut dire mis à part et ça veut dire tous les chrétiens. Tout chrétien est un saint, ça veut pas dire qu'il est tellement rempli de sainteté, ça veut dire qu'il a été mis à part du monde en général pour être à Christ. D'accord? Et donc, ça fait presque 40 ans que je suis chrétien. J'ai vécu en tant que chrétien aux États-Unis, en Afrique, en France, et j'ai vu la même chose partout. Donc, quelque église où je suis, quelle que soit la dénomination de ces églises protestantes où j'ai été, j'ai retrouvé la même famille, la même ambiance d'amour fraternel assez unique les uns pour les autres. C'est vraiment frappant. Et quand je fais des tournées dans des églises, parfois, je ne connais même pas les gens, à la limite. Mais il y a cet amour, c'est comme si je les ai connus toute ma vie. C'est assez fou. Et cela vient de Dieu, et c'est parce que nous connaissons le même Seigneur, le même Sauveur. Nous avons été arrachés du même péché. Nous nous voyons de la même manière comme juste des pauvres pécheurs qui, n'est-ce pas? Et il y a un truc commun qui est tellement fort que cet amour fraternel n'est pas le fait que j'ai des bons sentiments envers vous tous. Vous pouvez trouver quelqu'un dans votre église un peu bizarre, mais quand même l'aimer. Ouais, il est comme ça, mais il est formidable, n'est-ce pas? C'est pas que j'apprécie tout dans tout le monde, mais je les aime. Ça, c'est ma famille. C'est mes frères et mes sœurs. Oui, pour moi, c'est les meilleurs gens du monde. C'est un peu comme ça. Et donc, c'est ce sentiment où je ne peux pas être heureux sans que vous soyez heureux. C'est ça, cet amour. À un moment donné, Paul dit ceci. Il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous, entre chrétiens, parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. On a ce sentiment, on est une famille, on est véritablement membres les uns des autres, et lorsque ma main a mal, tout mon corps a mal. C'est un peu comme ça. Maintenant, nous n'avons pas créé ça. Ici, dans cette église, on n'a pas fabriqué ce sentiment, cette attitude les uns envers les autres. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est une des marques que Christ est venu dans notre vie et que nous sommes à lui. Troisièmement et dernièrement, à cause de l'espérance, je remercie le Père, dit Paul, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de vérité vous a fait connaître. Donc, la foi, l'amour, l'espérance. Mais attention, vous avez remarqué un truc bizarre? À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Alors, bon, vous savez ce que c'est que l'espérance selon la Bible? C'est pas comme en français, j'espère signifie que je veux bien, mais je ne suis pas sûr si ça va arriver. Le mot espérance dans la Bible signifie une attente certaine d'un bien futur qui est certain. Il n'y a pas de doute. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot espérance, et ça c'est vrai en français, signifie parfois la chose que j'espère et parfois mon action de l'espérer. Par exemple, je dis, mon espérance, c'est que Jean arrive avant la semaine prochaine. Alors ici, le mot espérance signifie la chose que j'espère et pas mon action elle-même. Mon espérance, c'est que Jean. Je parle de quelque chose objectif en dehors de moi. D'accord? Mais lorsque l'une est présente, l'autre est présente. Ici, il parle duquel? Je remercie le Père à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Eh bien, c'est de l'espérance objective, parce qu'elle n'est pas dans mon cœur, mon action d'espérer, elle est aux cieux. L'espérance qui vous est réservée. c'est-à-dire cette vie éternelle, cette gloire à venir, ce monde nouveau et céleste dans lequel il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas ce besoin de croire en Dieu parce qu'on ne le voit pas, parce que nous vivrons dans sa présence glorieuse, c'est cette espérance. Voilà, qui nous est réservée aux cieux. Et donc, avant qu'on ne devienne chrétienne, on a soit une vie sans espérance, soit de fausses espérances. L'apôtre Paul dit dans les Éphésiens chapitre 2, « En ce temps-là, vous étiez loin de Christ, vous étiez étrangers, vous n'appartenez pas au peuple de Dieu, vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. » Allez lire Camus ou Sartre, et vous allez découvrir ce que c'est qu'une vie sans espérance. La philosophie de l'absurde. Nous sommes là par accident, nous ne venons de nulle part et nous n'allons nulle part. Il n'y a aucune raison d'être. Aucune raison d'être de l'existence humaine, donc aucune espérance. C'est terrible, ça, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens aujourd'hui dans l'Occident vivent comme ça. Ils essaient d'oublier ça, parce qu'on ne peut pas survivre sans oublier, sans la politique de l'autruche. On ne peut pas. On se suicide. D'ailleurs, est-ce que c'est Sartre ou Camus qui dit que la seule question fondamentale qui reste dans la philosophie, c'est pourquoi ne pas se donner la mort?
C'est Camus.
Ouais. Ben, c'est logique. Au moins, il est logique avec sa philosophie. Mais on vivait comme ça. On sentait le manque de sens. Pourquoi? Le pourquoi? Mais lorsqu'on vient au Sauveur, on a cette espérance. On sait que nous avons été faits non pour ce monde de vanité qui est détraqué, mais nous avons été faits pour un monde différent qui viendra. Qui viendra. Cette vie éternelle auprès du Père. Je dirais juste par rapport à cela que les fausses espérances, le succès, l'argent, les plaisirs qui ne peuvent jamais satisfaire vraiment l'être humain. Vous avez dans votre cœur un vide en forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse le remplir. Mais cette espérance que maintenant je connais mon Dieu, je le connais, il m'a ramené à lui-même. Et je vais vers lui. Il m'amène vers lui. Et vers sa gloire. C'est incroyable. Ça change complètement la vie. N'est-ce pas? Et on vit différemment les choses de la terre. L'argent et le succès, on peut l'avoir maintenant, mais avec une main qui n'est pas en train d'agripper. Parce que ce n'est pas notre espérance, ça. Donc ça nous change sur tous les plans, c'est assez incroyable. Et là où vous voyez des chrétiens, vous allez voir des gens qui, leur centre de gravité, leur centre d'équilibre, c'est cette espérance qui est réservée aux cieux. C'est là le lourd de leur vie, le lourd. Pour moi, l'espérance, c'est la chose pour moi qui est tellement grande c'est mon attente que tout le reste, c'est juste le chemin pour y arriver. C'est ça l'espérance. Et notre espérance est réservée pour nous dans le ciel. Et on se chemine. Et on est en train d'être transformé afin de pouvoir parler le langage du ciel. Qui est l'amour, la justice, la bonté. Et Dieu est en train de nous former pour être ça ici. Parce que c'est le langage qu'on va parler là-bas. Donc on vit avec cette foi en Christ. Personne ne peut prendre sa place dans ma vie. On vit avec cet amour pour la famille de Dieu qui est un peu unique. Et on vit avec cette espérance, nous sommes en attente. Et ça, c'est le portrait, le caractère d'un vrai chrétien. Est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Dieu vous appelle dans sa grande tendresse à faire confiance à Christ qui a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Nous allons chanter le numéro 145 dans notre recueil. Il parle justement de cette espérance à venir, plein d'espoir.